Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Avant de commencer votre épisode, j'aimerais vous parler du film Rosalie, qui est actuellement au cinéma. Un film réalisé par Stéphanie Di Giusto, qui présente le destin de Rosalie, une jeune femme qui se découvre et s'émancipe dans la France très puritaine de 1870. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Rosalie est une femme à barbe, un trait physique quelque peu particulier, surtout pour les mœurs de l'époque. On vit avec Rosalie sa quête d'amour et de liberté face à une société qui ne l'accepte pas à cause de sa différence. Le film réunit pour la première fois Nadia Tereskevitch et Benoît Magimel, tous les deux très touchants dans cette histoire d'amour complexe, mais très belle. Alors n'attendez plus pour aller voir Rosalie au cinéma dès maintenant et découvrir ce film qui célèbre l'acceptation de soi et des autres. Vous pouvez aussi découvrir l'interview de Nadia Tereskevitch, le personnage principal du film, dans notre dernier épisode de Pépite. À très vite!
Une bibliothèque, ce sont des étagères, ou des piles éparses de livres qui murmurent le souvenir des lieux où l'on a lu, des trains que l'on a pris, des nuits sans sommeil et des personnages devenus nôtres. La mienne me rassure. C'est un lieu de mémoire où mes livres me connaissent autant que moi, je les connais. Un lieu où je me sens chez moi, où je me rencontre. Un véritable lieu de naissance, comme le dit si bien Marguerite Yourcenar dans les Mémoires d'Adrien. Je suis Agathe Le Taillandier, je suis prof de lettres passionnée de littérature et journaliste. Bienvenue dans le Book Club, un podcast de Louis Média. La journaliste Maya Mazorette, elle, a trop bougé, trop déménagé. Aujourd'hui, elle habite aux États-Unis et sa bibliothèque se trimballe sur sa tablette. C'est mieux pour sa vie de nomade. Quand Gladys m'arriva à l'interview, elle est juste de passage à Paris pour la promotion de ses deux livres « Sortir du trou, lever la tête » et « Le sexe selon Maya », compilation de ses articles sur la sexualité, publiés dans Le Monde toutes les semaines. Elle y mêle conseils pratiques, notices et illustrations pour une sexualité émancipée. C'est d'ailleurs le récit d'une émancipation qu'elle a aimée dans le roman dont elle va vous parler. C'est l'été, elle est dans le sud et le soleil brûle sa peau. Mais en lisant, elle est à Saïgon, au cœur d'une histoire d'amour et de désir battant. Ce livre, c'est surtout pour Maya Mazorette, celui d'une héroïne libre et audacieuse. Le personnage et son autrice seront un guide pour cette pionnière d'un journalisme des sexualités. Pour cet épisode, Gladys Mariva a tendu son micro à Maya Mazorette autour d'une galette des rois.
Il n'y a pas beaucoup de livres ici, parce que c'est un appartement partagé. C'est l'appartement des Mazorettes, donc il y a des trucs de mon frère, il y a des trucs de mes parents. Et puis moi, ça fait plusieurs expatriations d'affilée quand même. Donc entre Paris et Berlin, j'en avais déjà perdu beaucoup, puis Berlin-Copenhague, puis Copenhague-New York. Donc maintenant, en fait, je fonctionne par tablette. Donc je suis passée au numérique. Je peux te montrer en fait.
Ouais, ok, bah, donc on s'assoit tranquille. Hop.
On s'assoit et je vais quand même... Je coupe la mini galette des rois parce que là, on est quoi? On est le 11 Le 11 janvier, j'ai toujours pas mangé de galette. Et j'en ai hyper envie, en fait, depuis 10 jours. Donc là, j'en ai amené.
Pour le coup, je suis pas du tout moderne. Donc, j'utilise pas la tablette. Mais comment tu peux te repérer? En fait, c'est genre juste, tu fais défiler tout un tas de titres. Tu les as pas classés par genre ni par... Ouais. C'est vraiment... Du coup, il n'y a que toi qui peux comprendre, en fait, le système.
C'est classé par ordre de la dernière fois que j'ai ouvert un des documents. Donc, des fois, c'est des choses que j'ai lues il y a longtemps et que j'ai réouvert pour retrouver une citation. Ou alors, il y a des choses qui sont, du coup, perdues dans les archives. Mais en fait, j'aime bien perdre des livres. Parce que j'ai l'impression que, des fois, une bibliothèque, c'est aussi quelque chose qui nous rattache au passé, à la personne qu'on était il y a 15 ans, quand on a lu, je ne sais pas, Simone de Beauvoir. Et que... C'est aussi un poids qu'on trimballe et qui, des fois, peut nous rappeler qu'on n'a toujours pas lu le Umberto Eco qu'on a commencé il y a 8 ans. Et qui, des fois aussi, il y a pas mal de personnes, par exemple, qui n'achètent pas de nouveaux livres parce qu'ils disent « mais j'en ai 10 à lire ». Et finalement, si on ne les a pas lus 6 mois après, c'est peut-être qu'on ne les lira jamais, que ce n'est pas le bon moment. Donc moi, j'ai aussi un intérêt personnel à ne pas avoir une bibliothèque qui est sous mes yeux. Et on voit une qui justement disparaît comme ça au fur et à mesure. Parce que sur le Kindle, il arrête de télécharger au bout d'un moment. Après quelques années, et du coup, le bouquin repasse dans le cloud. Donc, il n'est même plus physiquement sur mon ordinateur. Et je trouve ça très bien, en fait.
Moi, du coup, ce qui me stresserait, c'est comme quand j'imagine qu'il y a un incendie chez moi et que je perds toute ma bibliothèque. C'est si je me fais voler cette tablette qui contient tout. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as tout mis dans les nuages, là, dans le cloud, comme on dit?
Il y a des choses qui se mettent automatiquement dans le cloud. Mais moi, ça me va, en fait. Si tout disparaît demain, j'ai aucun problème par rapport à ça. Et puis, en plus, comme moi, j'oublie les livres, mais très, très vite, en fait. Je peux relire la même chose indéfiniment, quasiment. Et finalement, si je ne sais pas que je l'ai lu, alors peut-être que je le relirai avec autant de plaisir et que ce sera plus de plaisir pour moi. Donc, moi, ça me va.
L'autre chose qu'on aime quand on lit beaucoup de livres, c'est prendre des notes. Alors, du coup, ça marche comme ça sur la tablette. Tu es aussi à l'aise pour noter tes livres numériques que tes livres papier?
Oui, je note beaucoup. Quand j'ai des livres papier pour le boulot, j'écris directement dessus et je les corne et je mets des petits commentaires qui sont généralement what the fuck parce que c'est des choses pour le boulot. Et là, ce que je fais en fait, c'est que sur ma tablette, on peut sélectionner un texte, on peut le mettre en highlight et puis aussi on peut faire des copier-coller. Donc par exemple, dans mon application Notes, j'ai un petit dossier qui s'appelle Citations. Donc dans les citations, j'ai un truc de Mona Chollet. J'ai du Virginie Despentes, j'ai du Alain Damasio, j'ai Yourcenar, qui était une de mes lectures préférées cette année. Voilà, donc je prends note sur ma tablette.
Et la dernière chose que je me demandais, du coup, c'est l'autre plaisir d'avoir des livres, c'est de les prêter. Et du coup, là, tu partages des lectures sous format numérique ou pas?
Mais je ne peux pas prêter livre de toute façon parce que je suis expatriée et que je n'ai pas forcément beaucoup de personnes françaises. Alors, je lis quand même essentiellement en français aujourd'hui. Ce que je reçois pour le boulot, j'en ai une pile à la maison, peut-être je crois qu'il y en a 80 en ce moment, que je sais bien que je ne relirai jamais. Mais je ne sais pas quoi en faire. Donc quand j'habitais à Paris, en fait, je proposais aux lecteurs de venir assez régulièrement ici dans cet appartement où on est maintenant, à condition qu'ils prennent tout. C'est-à-dire qu'ils amenaient à boire. Et donc, je mettais une pile de bouquins, de sextoys sur la table et ils partaient avec. Ouais, et il faudrait que je fasse ça, en fait, avec les touristes cette année qui viennent passer par chez moi et repartaient avec des livres, repartaient avec des sextoys.
Maya Mazorette, le livre dont tu veux nous parler aujourd'hui, c'est L'amant de Marguerite Duras. Alors, L'amant qui a obtenu donc le prix Goncourt, donc au bout de nombreux romans publiés par Marguerite Duras, donc une histoire d'amour, enfin une rencontre entre donc une jeune fille qui a 15 ans et demi, il me semble au départ, et un homme qui a bien 14, 15, 16 ans de plus qu'elle.
Oui, c'est ça.
Donc elle est une jeune, alors on disait pas expatriée à l'époque, on disait elle vient de la métropole.
Voilà.
Et donc avec sa famille donc qui vit là, donc on s'en souvient, elle porte un feutre d'homme avec un ruban et c'est ça qui est absolument extraordinaire avec deux tresses et puis donc il y a cet homme qui l'aperçoit depuis sa voiture, elle est sur un bac. Et c'est un homme chinois. Et donc, c'est très rapide, en fait. Ils se voient et d'un seul coup, c'est une relation charnelle. On va beaucoup parler de ça. Et par ailleurs, comme dans tous ces romans qui se passent à Saïgon,
Elle parle beaucoup de sa mère, elle parle beaucoup de ses frères, et elle parle aussi, là, dans cette histoire, d'une fille qui l'obsède un peu, et j'aime bien aussi cette partie-là. Donc, il y a plein de matières, et c'est pas du tout anodin, j'imagine que t'aies choisi ce roman-là, parce que ça fait écho à plein de questions que tu traites, donc à la fois sur ton blog et dans tes livres, donc le sexe et le pouvoir, la soumission aussi, le fait que l'amour et le sexe d'ailleurs, qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui est dans quoi, qu'est-ce qui est au-dessus de quoi, l'amour et le sexe, la différence d'âge, qui est un peu d'ailleurs un sujet d'actualité. J'ai vu que tu avais fait un billet dernièrement sur la pédophilie. Donc voilà, plein de thèmes qu'on va pouvoir discuter ensemble. Alors, mais d'abord, je voudrais savoir pourquoi ce livre te raconte, Maya Mazoret, pourquoi l'amant de Marguerite Duras ou Duras te raconte?
Parce que c'est un roman culte aussi dans ma famille. Donc c'est pas que moi. C'est que moi, évidemment, j'ai des parents qui lisent beaucoup et qui m'ont toujours mis des livres entre les mains. Donc celui-là faisait partie des livres donnés, recommandés. D'ailleurs, puisque tu faisais ton introduction en disant qu'il y avait des questions de rapport de pouvoir, de sexe et d'âge, c'était au même âge qu'on m'a mis entre les mains Gabriel Masneff, par exemple. Donc on pourrait dire que Marguerite Duras est une espèce de formidable contrepoison par rapport à une espèce de culture littéraire où c'est forcément cette espèce d'homme prédateur plus âgé qui va exploiter la faiblesse inhérente à la jeune fille. Là, dans L'amant, Marguerite Duras, elle est sur un propos quasiment inverse. Alors évidemment, il y a plein de questions de pouvoir dans le bouquin, mais c'est une jeune fille de 15 ans qui n'est pas du tout naïve, qui est très peu manipulée, qui n'est pas forcément toujours très lucide, loin de là. Mais comme elle est blanche et que lui, il est chinois, comme elle n'est pas amoureuse et que lui, il l'est, comme elle sait ce qu'elle veut et que lui est un espèce de personnage sans toujours beaucoup de colonne vertébrale, alors elle n'est pas du tout cette jeune femme victime qui est très érotisée, en fait, dans la littérature française et dans laquelle moi, quand j'étais une jeune fille de 14 ans, 15 ans, à ces âges-là, et puis encore plus, encore aujourd'hui, à 41 ans, je ne me reconnais pas du tout. Parce que moi, voir des auteurs hommes je sais pas, 40, 60, 80 ans, peu importe, qui décrivent comme ça une espèce de vision complètement idéalisée d'une jeune fille qui est forcément pure et innocente, ou alors qui est gentiment perverse, mais un petit peu innocente quand même, au fond, ça me rembarge. Parce que c'est jamais même l'enfant que j'ai été. Et je pense pas être une exception, surtout aujourd'hui où on sait bien que les jeunes filles ont peut-être leur puberté plus tôt, ont accès à la pornographie plus tôt. Cette idée qui est aussi une question de pouvoir, que si une jeune femme de 15 ans ne sait rien sur le sexe, ne sait rien sur l'amour, est suffisamment naïve pour pas savoir qu'elle est belle, alors évidemment qu'on va pouvoir exploiter cette ignorance pour lui demander des rapports sexuels qu'elle aurait pas donné, et même des sentiments aussi. Donc c'est la question de la jeune fille innocente de 15 ans, c'est vraiment un truc de prédateur. Alors il faut pas employer le mot prédateur, mais s'il y a tant d'hommes qui trouvent que c'est génial d'être une fille très généreuse et très innocente, c'est évidemment qu'ils y trouvent leur compte, et que je trouve ça scandaleux. Et donc là, Marguerite Duras arrive, alors donc on est en 1984 de mémoire, et elle nous fait ce personnage de fille de 15 ans et demi, donc techniquement donc on n'est plus dans la pédophilie, ni dans l'ébéphilie, puisqu'elle n'est pas mineure de 15 ans, donc elle a sa majorité sexuelle, elle est absolument libre de faire les choix qu'elle fait, et qui tombe pas amoureuse ou qui est pas sûre, domine somptueusement un homme qui a deux fois son âge, qui sait ce qu'elle veut, que lui, au début, il veut pas forcément, enfin, il se mettrait des barrières pour avoir ses relations sexuelles avec elle, et c'est elle qui le déshabille, par exemple. C'est elle qui demande à ne pas avoir, justement, de statut de femme spéciale sur un piédestal et qui lui répète « fais avec moi comme tu fais avec toutes les autres femmes ». Donc en plus, elle n'est même pas dans un espèce de rapport narcissique par rapport à elle-même, puisqu'elle voudrait justement être comme les autres. Et puis, elle aussi, en faisant ça, elle reprend le pouvoir sur sa famille. Il va de soi que comme il a beaucoup d'argent, c'est un riche fils de banquier chinois, elle va pouvoir en tirer un bénéfice économique, et elle vit dans une famille qu'elle présente comme extrêmement pauvre. Donc il n'était pas forcément dans les faits historiques. Mais ce qui lui permet de prendre son indépendance par rapport à sa famille, et aussi de récupérer de l'argent, qui lui permet du coup de transgresser plein de normes, et puis de faire bouffer les frères et la mère.
Ce qu'elle dit aussi au début du livre, c'est « j'avais 15 ans et demi, c'était déjà trop tard, ça a toujours été déjà trop tard, j'ai vieilli très vite ». Il y a quelque chose sur l'âge, donc elle demande à cet homme de la traiter comme les autres femmes. Elle demande aussi de pas prendre d'égards particuliers parce qu'elle est vierge. Enfin, il y a cette idée qu'elle veut que tout aille très vite, brûler les étapes, quoi. En tout cas, elle veut pas être retenue dans un âge. Ça n'a pas de sens, quoi.
Oui, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître aussi chez les jeunes d'aujourd'hui, et peut-être même ma génération, qui est que la sexualité, elle est tellement liée au passage à l'âge adulte, donc à l'émancipation, à la liberté, éventuellement à certains capital économique, qu'on a intérêt à ce moment-là à brûler les étapes et aussi à se faire bien voir de ses copains. On a la pression des pères, évidemment, quand il s'agit de dire qu'on l'a fait ou qu'on l'a pas fait. Moi, quand j'avais cet âge-là, j'avais des filles, des copines de la famille qui me disaient « Bon, bah, faudra bien passer à la casserole à un moment ou à un autre. » Donc, voilà, et c'est brutal, effectivement. Mais ça, c'était aussi les jeunes filles de 15 ans, donc des années 90. Donc, moi, ça me parle non pas comme une exception durassienne, mais comme quelque chose qui est très, très moderne, très aussi lié au statut de la sexualité dans nos sociétés, où c'est cette espèce de rite initiatique. Quand il n'y a plus de rite initiatique. Peut-être plus pour les garçons, pour les filles, parce que nous, on a nos règles. Donc ça permet effectivement de dire, voilà, là, maintenant, tu es une femme, une vraie. Pour un homme, on voit bien que la question des sentiments est éventuellement évacuée. Enfin, ce n'est pas la priorité, puis ce n'est pas grave. Il y en aura peut-être plus tard, des sentiments. Mais qu'il faut l'avoir fait pour ensuite se libérer. Et quand on lit ce que Marguerite Duras dit de sa famille, alors en plus, livre après livre, on se doute bien qu'il y a quand même une urgence à s'émanciper, parce que c'est une famille avec beaucoup de non-dits. C'était pas forcément ensuite toujours comme ça que ça se passait. En vrai, par exemple, elle dit on est une famille de sauvages, on se parle pas, aucune communication, jamais. Et quelques pages plus loin dans le bouquin, il y a quand même une discussion avec sa mère. Donc bon, pour des gens qui parlent pas, bah, finalement, ils parlent. Et c'est pas grave du tout, parce que Marguerite Duras, elle s'invente une réalité comme ça, donc c'est de l'autofiction, en fait, au fur et à mesure. Et par exemple, elle dit... des fois, je ne me souviens absolument pas de cette scène. Ensuite, elle décrit la scène dont elle ne se souvient pas. Après, elle dit « c'était un jeudi ». Elle cache rien, en fait, du processus littéraire qui lui permet de ne pas se souvenir d'un truc, de l'inventer, de décréter que ça s'est passé comme ça, sans essayer de nous faire gober, à nous, lecteurs et lectrices, le fait qu'il y ait une quelconque réalité historique là-dedans, puisque j'ai l'impression qu'elle se raccroche à une réalité supérieure, qui est celle de la littérature en général. Parce qu'évidemment, Marguerite Duras est suprêmement arrogante, et je l'aime aussi pour ça, hein, parce que c'est quelqu'un qui a pu dire... Je crois qu'elle a dit à un moment, la littérature, c'est moi. Et hier, en m'endormant, je lisais ce qu'elle disait sur le cinéma, et elle dit un truc genre, il n'y aura pas de cinéma après Marguerite Duras. Et j'adore, en fait, pouvoir dire ça, mais quelle incroyable liberté, surtout quand on est une femme et qu'on doit toujours s'excuser de tout, et rester à notre place. J'aimerais, en fait, entendre plus de femmes aujourd'hui disant qu'elles ont tout inventé.
Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as lu L'Amant ?
Je me suis posé la question et il me semble que j'étais donc dans le sud de la France, là où toute ma famille est rassemblée aujourd'hui, dans le Vaucluse. Donc c'est aussi un territoire qui est à l'inverse de ce que Duras décrit dans L'Amant, où on n'est donc pas du tout dans le tropical, hein, c'est la région la plus sèche de France, où j'ai toujours passé tous mes étés. Donc c'est sur de la garrigue, des choses vallonnées, avec une nature qui est très épineuse. C'est des chênes, du thym, du romarin, des lavandes, une nature qui fait mal, où on marche toujours sur des cailloux. J'étais évidemment tout le temps pieds nus quand j'étais enfant, à marcher sur les épines de pin, les choses comme ça. Et donc, elle arrive avec cet élément incroyablement liquide, et ce livre un peu liquide d'ailleurs. Et moi, je devais être à ce moment-là dans la sécheresse et l'aridité absolue du Vaucluse, que j'adore.
Et est-ce que tu te souviens ce que ça provoque chez toi ?
De l'envie, bien sûr, de l'envie. Parce que je ne l'ai pas lu comme une histoire d'amour, ou même, je pense, plus que ça, de sexe à ce moment-là. C'était plus pour moi une question d'émancipation. C'était une jeune fille de 15 ans qui était celle que j'aurais rêvé d'être. Belle, libre, qui allait en pension, donc qui ne retournait pas chez ses parents à longueur de temps. Qui habitait pas en banlieue parisienne, qui était l'endroit où j'habitais à ce moment-là, dans un endroit très moche, qui, comme ça, pouvait rencontrer quelqu'un, le suivre à la maison, poser ses conditions pour l'accès à la sexualité, et aussi ne même pas être prisonnière d'une vision de la jeune fille qui, forcément, va coucher parce qu'elle est amoureuse. Donc moi, à ce moment-là, ayant 15 ans, lycéenne, prenant le RERC le matin pour aller au lycée de Savigny-sur-Orge, dans une banlieue quand même très très grise. Et voyant cette fille qui a mon âge, et elle a un chapeau incroyable, elle a une robe incroyable, elle est avec des souliers dorés, elle prend le bateau, elle a un homme très riche qui la courtise, qui est à ses pieds, qui lui offre une bague très chère, et dont elle fait ce qu'elle veut en fait. Donc elle est libre. Et je suis pas sûre aujourd'hui que c'est exactement l'histoire que Marguerite Duras raconte, ou pas que celle-là, puisque évidemment, maintenant je le lis et je vois tous les rapports de pouvoir et je vois que cette liberté, elle a un prix et puis elle a aussi une origine, qui est que évidemment, elle a besoin de ce que l'amant chinois peut lui amener, notamment en termes financiers. Mais à l'époque, je me disais, voilà, j'aimerais être cette jeune fille-là. Mais le problème, c'est qu'évidemment, le film est sorti, la tête de Jeanne March est absolument partout. Au moment où je lis le bouquin, j'ai cette actrice sublime en tête et je me dis, pour avoir cette vie-là, pour avoir cette absolue indépendance et liberté, alors il faut être une femme très belle. Il faut être grande, mince, avec des fesses parfaites, ce visage qui évidemment est complètement irrésistible, alors je pense à tout point de vue, et je me dis, j'y arriverai pas ou pas forcément, ou alors ça va être très compliqué. Et ça, je pense que plein de femmes le vivent, où il y a toujours un truc qu'on nous répète en tant que nana, qui est que on aura une meilleure vie si on est très, très désirable. Et aussi qu'il va y avoir une péremption, qu'il va y avoir un moment où ça va s'arrêter. Et ce qui est ironique, c'est que en fait, quand l'amant commence, on est peut-être page 3, quand Marguerite Duras dit, voilà, à ce moment-là, elle a 15 ans et demi, mais ensuite, à 18 ans, elle vieillit. Et ensuite, elle dit qu'elle garde le même visage jusqu'à ses 80 ans, d'une femme qui a un visage détruit à 18 ans. Il n'y a pas grand monde, enfin j'espère, hein, qui se réveille le matin en disant « Voilà, j'ai un visage détruit à 18 ans. » Oh là là, c'est une drama queen, Marguerite Duras, mais j'adore, hein, j'adore, il faut. Alors ensuite, j'ai été voir les photos de Marguerite Duras quand elle était jeune. C'est donc évidemment elle qui délire complètement parce qu'elle était très belle jusqu'au bout, en plus. Et donc elle dit aussi qu'à ce moment-là, elle a 15 ans et demi, qu'à 18 ans, c'est fini, donc qu'elle... Ce moment de désirabilité, il dure 2 ans et demi. Et comme sentence posée sur la féminité, c'est quand même assez monstrueux. Et moi, personnellement, j'en suis bien revenue là, à donc, mon âge avancé de 41 ans. C'est que quand j'avais 15 ans, je me disais, bon, alors, bon, si jamais j'étais Jeanne March, ce serait plus facile. Mais bon, du coup, jusqu'à 20 ans, il faut bien que je profite. Je pense plutôt de 20 à 25 ans, j'ai bien profité. Mais j'avais une date de péremption qui était 25. Donc je me disais, bon, il faut absolument que je me mette en couple sérieux, ce que j'ai fait avec un garçon tout à fait adorable. Mais du coup, à 30 ans, je me suis dit, mais mince, en fait, je peux encore profiter de la vie. Donc je l'ai quitté la veille de mes 30 ans. Mais c'est vrai que c'est complètement irrationnel. Bon, il est marié aujourd'hui, il est très heureux, donc ça va. À 35 ans, rebelote. Et puis je me disais, mais qu'est-ce qui va me tomber dessus à 40 ans? Est-ce que je vais encore prendre une décision absurde dans ma vie? Parce que j'ai l'impression que c'est le dernier moment de ma vie où je vais pouvoir faire l'amour avec l'amant chinois. Et je pense que justement, là, maintenant, en fait, en passant 40 ans et en ne prenant aucune décision absurde concernant mon mode de vie, je me dis que maintenant, en fait, j'ai confiance que je pourrais séduire qui je veux aujourd'hui, demain et jusqu'au bout de ma vie.
Et pour écrire ce livre, ton dernier livre, donc Sortir du trou, dont tu me racontais au téléphone quand on s'est appelé, que tu étais allée sur les traces de Marguerite Duras, donc en Asie.
Oui, j'ai été finir mon dernier livre, donc Sortir du trou, lever la tête, sur les traces de Marguerite Duras, donc c'est dire quand même à quel point je suis acharnée sur la question. Dans le barrage contre le Pacifique, et c'est aussi une histoire qui est reprise dans L'Amant, on apprend que la mère de Marguerite Duras s'est fait refiler des terrains qui sont inondables chaque été et sur lesquels on peut rien faire pousser. Donc la mère, elle construit des barrages qui sont balayés année après année par l'océan et qui embarquent cette maison. Donc aujourd'hui, on peut pas voir la maison parce qu'évidemment, elle n'existe pas, mais elle est à 80 km à l'ouest de Kampot, au Cambodge. Donc j'étais dans ce coin-là, et donc il y a une petite borne près d'une route où on peut voir que c'est là qu'il y avait la fameuse maison du barrage contre le Pacifique. Et pour la petite histoire, depuis, l'aide au développement de la France a créé un barrage en dur, qui existe aujourd'hui et qui fait que ces terres-là ne sont plus inondables et qu'on peut faire pousser des choses dessus et que les agriculteurs peuvent y vivre. Donc quand on se dit qu'on ne peut pas faire de barrage contre l'océan, en fait si. Et c'est terriblement réconfortant. Et je crois que de son vivant, Marguerite Duras n'aura jamais su que finalement le barrage, le fameux barrage, a été construit et qu'il y est toujours aujourd'hui. Mais c'est la preuve qu'avec la littérature, avec le fait de garder espoir en littérature, alors on peut faire advenir des choses qui paraissaient être impossibles. Et des fois, en sexualité, il faut déplacer tellement de montagnes qu'on se dit « j'y arriverai jamais », et pourtant si. Et ça bouge, et on y arrive, et on le voit dans les statistiques. Et avec, bah, évidemment, le mouvement MeToo, on voit bien qu'en ce moment, c'est les montagnes du viriarcat qu'on est en train de mettre par terre. Et évidemment que ce sera difficile, et évidemment qu'il y aura des petits retours en arrière. Mais là, je suis très optimiste parce que je vois pas comment est-ce que là, notre barrage contre le Pacifique collectif, il est pas en train d'être un succès extraordinaire, et que là, l'océan pourra gronder autant qu'il veut. On reviendra pas en arrière, là, c'est bon.
Alors, on a beaucoup parlé, donc, forcément, de Marguerite Duras, donc de l'amant, mais aussi du barrage contre le Pacifique. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait eu d'autres livres dont tu aurais eu envie de nous parler, si on t'avait demandé, comme on le faisait avant dans le book club, trois livres?
Pour les auditeurs et auditrices qui lisent en anglais, il y a Marie Renault, R-E-N-A-U-L-T, qui a écrit non seulement une trilogie sur Alexandre le Grand, mais aussi un livre qui s'appelle « The Nature of Alexander ». Alors moi, je suis une grande fan d'Alexandre le Grand, et qui permet en fait de découvrir le personnage, de voir qu'à cette époque où les conflits Est-Ouest sont dans l'actualité de manière particulièrement scintillante entre l'Iran et les États-Unis, là, quand on parle aujourd'hui, quelle époque, il y a 25 siècles, un peu moins, il y a cet élève d'Aristote qui prend l'armée de son père et qui se dit qu'il va réunir le monde. Et donc, il arrive justement comme ça, en Iran jusqu'au Pakistan. Et il se dit, j'ai pas envie d'être juste un colonisateur, j'ai envie de créer une culture commune, Est-Ouest, et qui, donc, lui, épouse, donc, parmi ses trois épouses, une Perse, et qui force en fait des mariages entre ses commandants, ses soldats et des femmes locales, qui crée une armée faite avec des enfants locaux, qui sera justement une espèce de nouvelle nation globalisante où on parle chacun la langue de l'autre, où on porte aussi indifféremment les vêtements des autres, où on prend leur culture, on les écrase pas. Et je me dis que Alexandre le Grand et son rêve d'unifier comme ça, disons à l'époque, l'Eurasie est terriblement, terriblement moderne. C'était une très longue réponse, je suis désolée. Je t'avais dit quoi d'autre? Cette année, j'ai adoré Les Furtifs d'Alain Damasio. Bon, je suis pas la seule, hein, il en a vendu des tractopelles, mais c'est très bien, c'est extrêmement exigeant comme littérature, et ça parle d'être en vie. Et donc, c'est aussi un livre qui donne la pêche, qui donne vachement d'espoir, dont moi, je m'inspire là pour mes prochaines conférences, parce qu'en sexualité, il parle très peu de sexe dans ce livre-là, il défend exactement les mêmes choses que moi, donc si vous aimez ce que je raconte sur le sexe, il faut lire Alain Damasio. Cette année, comme tout le monde, hein, j'ai beaucoup aimé My Absolute Darling de Gabriel Talente. Le Chant d'Achille de Madeleine Miller et Circé. Ah, et du coup, ça m'amène à l'autre livre dans ce cas-là que je vais recommander, qui est The Power de Naomi Alderman, qui maintenant est traduit en français, il me semble, sous le titre Le Pouvoir. Donc, juste pour mettre les gens en bouche, c'est un monde où, du jour au lendemain, les femmes se voient comme poussées, comme un espèce de nouveau membre, quelque part, où elles ont une domination physique sur les hommes. Et évidemment, ça change tout, autant la politique que la sexualité, que les migrations, que les rapports de pouvoir dans la vie tous les jours. Donc, c'est une fiction extrêmement, extrêmement intelligente. Enfin, c'est comme une anticipation alternative, on va dire ça comme ça. Et elle a vraiment traité, en fait, de plein de sujets complémentaires. Et c'est vrai que peut-être que vous, dans votre tête, là, vous imaginez ce monde-là. Il faut savoir que du coup, si vous lisez le livre, elle a imaginé des choses que vous n'avez pas imaginées, parce qu'elle a poussé le sujet jusque dans plein de retranchements. Et je pense que ça, que vous soyez un homme ou une femme ou intersexe ou queer ou au-delà de tout ça, vous allez découvrir quelque chose sur vous-même que j'espère vous ne suspectez pas.
Vous venez d'écouter Maya Mazorette au micro de Gladys Mariva. Le livre de sa vie, c'est L'amant de Marguerite Duras. Maud Benakcha a fait le montage de cet épisode. Elle est aussi à l'édition et à la coordination du Book Club. Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage et Pauline Thompson a composé la musique. Si vous aimez le Book Club, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, à le recommander autour de vous et nous mettre plein d'étoiles. Le Book Club, c'est un podcast, mais c'est aussi un club de lecture où l'on se rencontre. Alors suivez-nous sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les informations. À très vite.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettres Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettres Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettresola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.